Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Vous avez besoin d'un accompagnement financier pour suivre une formation qui vous est nécessaire? Retrouvez toutes les informations utiles sur le site fafcea.com.
RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Basket time. Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC, tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team aujourd'hui, Fred Veil, Stephen Brun et Alex Biggerstaff.
Bonjour, bonjour.
Salut Pierrot.
Qui a son billet pour Chicago-Détroit jeudi? Alex, Steve et Fred, donc il n'y a que moi qui reste à la maison et qui va regarder ça.
J'avais vraiment envie d'y aller.
Moi, ah, tu me trouves une
place. Envie d'y aller. Toi direct. Qui dis, mais les matchs en saison régulière, c'est de la merde, ça vaut pas un pichet, si c'est pourri, on se fait chier. Là, tu voulais aller à Bercy,
Il y a beaucoup trop de gros mots dans le début de ce podcast, déjà.
Ça démarre bien.
Et tu censures tous les mots, il n'y a plus rien, quoi.
Donc, toi qui dis que les matchs en saison régulière, c'est mauvais, s'ennuie, non, là, ça dit, c'est nul.
La saison est trop longue, oui, c'est vrai.
Donc, toi, tu vas aller à 21h, un jeudi soir, à Bercy, regarder un Détroit Pistons, 12 victoires, Chicago Bulls, 20 victoires.
Gros enjeu, hein,
qui va être sans intérêt d'ailleurs, mais c'est pas grave, j'y vais quand même.
Si vous voulez pour la hype, parce que t'es un influenceur, t'es un Instagrammeur, Pierre Dorian.
Il faut les afficher, les stars d'antenne quand même.
Oui, tu veux faire des photos.
T'as pas remarqué qu'il y a plus de gens qui perdent leurs cheveux? Je suis un influenceur de ouf. Non, mais c'est le vrai événement de la semaine de basket en France. Et c'est pourquoi nous faisons un Basket Time spécial NBA à Paris, Chicago, Détroit. Donc voici votre programme de ce podcast. Manque-t-il une superstar aux Chicago Bulls? Je vais vous demander, messieurs, s'ils vont enfin, un jour ou l'autre, tuer le père et sortir de la nostalgie Michael Jordan, les Chicago Bulls. Kylian Hayes est notre invité. Kylian Hayes a-t-il un avenir en NBA? Tu l'as rencontré, Stephen, on va écouter son interview. Et puis, vous allez me dire quel est le plus grand moment de la NBA en France dans l'histoire. Il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses à raconter, les séjours de Jordan, la Dream Team bien sûr, Tipeee, j'en passe et des meilleurs. Donc vous me direz dans la partie historique, quel est le plus grand moment de la NBA en France? Le quiz, le thème du quiz, je vous le donne, il est assez vaste, assez large, la NBA et la France. Voilà.
C'est beau.
C'est vraiment beau. On m'a dit qu'il était très dur.
Niveau de difficulté.
Campagne présidentielle avec ça.
All-Star.
All-Star.
Niveau de difficulté, All-Star. Donc celui qui gagne ce...
Pourquoi tu me vois à moi?
Celui qui gagne ce quiz sera considéré comme un All-Star de Basket Time. Ça vous va?
Comme ça
distinction
va.
Il y a une bague au bout.
Un Hall of Fame.
Un Hall of Fame, ouais. D'accord. Il y a une bague au bout. Il y a une distinction.
Quand même passer d'un statut extrême à un autre.
C'est-à-dire?
Bah, All-Star et Hall of Fame...
All-Star.
Je peux te donner des noms de joueurs All-Star qui seront jamais Hall of Fame.
J'ai dit niveau All-Star, on reste sur All-Star. Ouais. Et niveau Hall of Fame, ce sera pour une prochaine fois. Et si vous voulez, un jour, je vous ferai aussi un niveau...
Tu les comptes, les nombres d'émissions? Stéphane, il t'avait demandé ça il n'y a pas longtemps. Le nombre d'émissions de Basket Time que tu as fait.
Il faudra que je les calcule.
Ça, c'est un truc...
J'ai entendu Georges Eddy dans l'excellent documentaire de Canal sur Georges Eddy compter son
nombre
de matchs. Il a un peu abusé. Il a un peu exagéré. Bon, bref, ça sera le sujet d'un autre Basket Time une autre fois. Nous, on est sur Chicago, Détroit. Votre Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
And here comes Kobe White. All the way! Oh! Welcome back, Kobe White! DeRozan to win it! Goal! DeMar DeRozan! Caruso drives with the left hand, gets the roll!
Wow, don't do it to him like that.
And Vucevic just swats that into the fourth row. Levine, a difficult fading jumper, is good!
Les Chicago Bulls se traînent dans le ventre mou de la conférence Est. Alors, quel est le problème de cette franchise? Comment retrouver les sommets? Quand seront-ils de nouveaux champions? Parce qu'il y en a des bons joueurs, des Lavine, des DeRozan, des Vucevic. Mais j'ai l'impression, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que c'est un peu comme si les Bulls n'avaient toujours pas fait le deuil de Michael Jordan. Est-ce qu'il leur manque une superstar qui pourrait incarner le renouveau des Chicago Bulls? On va parler de tout ça. Mais d'abord, Alex, fais-nous un petit topo sur la saison de Chicago qui est vraiment, vraiment pas folichonne.
Alors essayons d'être simple, dixième à l'Est avec 20 victoires, 24 défaites, à peine en play-in et même bilan que Toronto. Saison qui a mal débuté, Pierrot, 6 victoires seulement sur les 16 premiers matchs pour les Chicago Bulls. Début loupé, donc tout le monde s'attendait à mieux de la part de Chicago. La saison dernière, en titre de comparaison, c'était un petit peu l'équipe phare de la Ligue, notamment dans le Money Time. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont souvent gagné des matchs dans les moments clutch des rencontres. On pense notamment à DeMar DeRozan. Bilan de 25 victoires pour 16 défaites dans les matchs tenus à 5 points d'écart dans les 5 dernières minutes la saison dernière.
Pas donc mal,
même
ça.
Si c'était pas en tête de la ligue, c'était
une équipe capable de gagner.
Ouais, Showtime en gros, on la retenait facilement. Cette saison, seulement 8 victoires en 22 matchs dans le même contexte. Donc il y a quelque chose qui a disparu du côté de Chicago, des scénarios défavorables notamment avec les arbitres comme contre Cleveland quand Donovan Mitchell marche sur la ligne des lancers francs avant même que le ballon ne touche l'arceau et pourtant à l'arrivée c'est Chicago qui perd. Bilan de 2 victoires et 2 défaites contre la meilleure équipe de la ligue, Boston. Donc c'est une équipe en gros qui est inconstante. C'est pas une mauvaise équipe mais elle est inconstante. Il y a aussi les scénarios de blessures, de transferts. Zach LaVine, on sait toujours pas s'il va rester à Chicago, ça fait un an qu'il est mêlé à des rumeurs de transfert. Effectivement, c'est très compliqué avec son coach. Et puis, les blessures de Lonzo Ball depuis un an qui n'a pu rejouer et qui essayerait de revenir avant la fin de la saison, mais ça paraît beaucoup trop prématuré par rapport à sa blessure au genou. Les stars pourtant sont là, enfin les pseudo-stars si on peut les appeler. DeMar DeRozan, 26 points en moyenne. Nico Vucevic, un double-double de moyenne. Ils font le taf, tout comme Zach LaVine. Mais voilà, au-delà de ça, c'est un Chicago bien trop inconstant et juste... Pour rappeler, depuis 2015 et donc la fin de l'ère Tom Thibodeau, les Bulls, c'est seulement 2 éliminations au premier tour des playoffs en cette saison.
Et alors, à part, alors rafraîchissez-moi la mémoire, mais à part l'époque d'Eric Rose, est-ce qu'il y a un moment où on les a vus, entrevus, retrouver les sommets de la NBA ?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment, hein.
Pas vraiment. Il y a peut-être une saison où ils ont cru un petit peu quand il y a Jimmy Butler et D-Wade, mais ils perdent au premier tour des playoffs contre Boston, il me semble. Mais tu parlais de deuil de Jordan.
Pour toi, il est fait le deuil ou pas ? Bah, ils sont toujours un peu dans cette nostalgie-là. Il n'y a pas de titre depuis 98, ça c'est sûr.
Il n'y a pas de titre. Alors après, faire le deuil de meilleur joueur de tous les temps, c'est quand même compliqué déjà. mais je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu une petite hype avec D-Rose, Joakim Noah, Lou Holdeng, coaché par Tom Thibodeau. Ils ont remis des frissons dans cette ville de Chicago avec des belles campagnes de playoffs.
Ça jette un coup de froid blessure de D-Rose.
Oui, exactement. Ça, c'était pour moi
c'était le deuil. C'était là que ça repartait. C'était,
exactement, bah, ça repartait. Après, bon, les blessures, t'as un petit Bodo qui a rincé tout le monde. Mais pour revenir sur l'équipe des Bulls, moi, je les ai vus 2 fois là, à Noël. J'ai détesté cette équipe. Elle est mal fagotée parce qu'ils ont un big three. Ils ont un small big three. Parce que quand t'as DeRozan, LaVine et Vucevic, c'est quand même 3 All-Stars dans une équipe.
Pas mal quand même.
C'est quand même beaucoup. Mais ces 3 mecs qui sont pas compatibles entre eux. C'est 3 mecs qui défendent pas un cachou, parce que Zach LaVine, avec toutes les qualités qu'il a, peut-être qu'à un moment donné, pourrait dire bon, bah, c'est que j'ai quand même des trucs pour défendre, mais ça n'intéresse pas. DeMar DeRozan, bon, ça n'a jamais été le plus grand défenseur. Et Vuč, c'est pas un rim protecteur, et il a des problèmes de mobilité, donc c'est pas le meilleur attaquant du monde. Et c'est une équipe qui joue à contre-courant de l'NBA. Le meilleur défenseur du monde, c'est une équipe qui joue à contre-courant de la NBA parce que c'est l'équipe qui prend le moins de tirs à 3 points. Et on sait qu'aujourd'hui en NBA, eh ben, ça fait feu de tout bois à longue distance. Et eux, ils décident de pas jouer de cette façon-là. Et puis surtout, l'accompagnement de ces 3 garçons, c'est faible. C'est faible. Patoche Williams, Ayo Dosunmu, l'enfant de Chicago, qui est le petit chouchou.
Dédé Drummond.
Ouais, il est sympa, Dédé. Non, il est un peu fatigué. Ayo Dosunmu, Patoche Williams, Javonte Green, qui joue à Ulm. Oui. Avant. Caruso,
qui est pour moi. Dragic, qui est sur la jante aussi.
Oui, Caruso, qui est pour moi.
Il est surcoté.
On parlait de sous-côté. Parce qu'il est content avec son bandeau. Rihanna lui a fait un clin d'œil quand il jouait avec les Lakers sur le banc de touche. Il fait 3 interceptions.
Du coup.
Oui, pour moi, c'est le supporting cast.
Goran Dragic, non ?
Il est gentil, Goran. Oui, mais bon, si t'attends que Goran t'emmène tout là-haut, tu
pas 10 ans trop tard.
Donc voilà, l'équipe, elle est mal fagotée.
Il n'y a pas eu une hype sur Kobe White à un moment, non ?
Un petit peu Kobe White l'année dernière. Tu vois la petite anecdote ? Parce que je suis allé à Chicago l'année dernière, je voulais acheter un maillot. Dans la boutique, pas cette année, l'année dernière, je suis à la boutique, je vois, il n'y a que des maillots de Kobe White. Et je dis au mec, vous n'avez pas l'autre maillot ? Il me dit, pourquoi il y a ce que Kobe White ? Il me dit, ah, parce que personne n'en veut, je pense qu'il va être tradé, gros. Il n'y avait que ses maillots à lui en vente à la boutique. Donc ça veut dire qu'il n'a pas une grosse cote de popularité. Non, mais cette équipe, il faut la changer.
Mal fagoté.
Il faut trader là, Vucevic, avant la fin de la trade deadline, parce qu'il est agent libre l'été prochain. Et donc je pense que c'est lui qui va être.
Donc il y a un move. C'est un joueur que plein de franchises peuvent récupérer, parce que c'est un joueur intéressant, Vucevic.
Honnêtement, il était intéressant d'un côté du terrain. Ah, il est sacrément en pente le terrain pour lui quand même. Offensivement, ça peut être très très bon.
C'est pour défendre.
Ah, mais il défend rien du tout. Il protège pas le cercle et c'est un des problèmes aussi de cette équipe. Comme il disait, ça défend pas, mais aussi parce que t'as personne derrière qui va assurer vraiment la protection du cercle. Donc c'est un peu compliqué effectivement.
Donc qu'est-ce qu'il leur manque à part partout
il leur manque plein de joueurs parce que leur banc il est trop faible. Il leur manque un peu de défense. Parce que concrètement, c'est compliqué. Et je suis désolé, mais on ne l'a pas dit, mais Lonzo Ball, il n'a pas joué aussi. Ouais. Et les meneurs qui sont sur le terrain actuellement, ce n'est pas des vrais meneurs de jeu qui amènent le ballon où il faut.
Lonzo Ball, c'est une blessure longue durée.
Ouais, au genou, ça fait un an qu'il n'a pas joué.
Il a fait une petite vidéo là où il met des petits dunks.
Et il y a peu de chances qu'il revienne avant la fin de la saison.
Voilà, donc, et donc il n'y a pas de meneur organisateur dans cette équipe. Donc déjà le ballon il arrive pas au bon endroit, t'as pas les joueurs et t'as ces problèmes défensifs et vous savez vite pour moi c'est un gros problème.
Tu fais le même diagnostic Alex ?
Ouais, bah au-delà de la question sur vont-ils pouvoir faire le deuil de Jordan ?
Et comment ?
Je pense qu'ils ont même pas fait le deuil de Derrick Rose.
De D-Rose, ah ouais.
C'est pour
on
te
en
dire.
Est là en fait.
Ouais, parce que en fait quand t'as besoin de relancer une franchise qui connaît des hauts et des bas comme ça, t'as besoin d'avoir une star peu importe laquelle,
ouais,
mais t'as besoin d'avoir une star.
C'est Clavine la star, c'est lui qui est l'équipe.
Et t'as besoin normalement d'avoir une star à la main, parce que quand tu regardes la ligue aujourd'hui, t'as beaucoup de franchises qui se sont refait une santé grâce à des jeunes meneurs. On l'a dit, c'est la concurrence, elle est phénoménale à ce poste-là. Et aujourd'hui, bah, Chicago manque d'un mec comme ça qui a de la hype, qui a quelque chose de spécial en lui. Ils n'ont pas un Ja Morant, ils n'ont pas un Luka Doncic, ils n'ont pas ce type de joueur-là, non. Malheureusement. Même si Lonzo Ball revenait, il n'est pas de ce calibre-là.
Ouais, il n'est pas de ce calibre.
Donc il faudrait qu'il trade un Damian Lillard, par exemple, qui a un échec à Portland.
Lillard, il ne quittera jamais Portland, mon grand.
C'est fini ?
Bah oui.
Et pourquoi ?
Puis surtout, tu le prends sur la pente descendante.
Il a dit qu'il ira jusqu'à la mort avec cette équipe de Portland.
Oui, mais c'est justement pour ça que je parle de lui. C'est parce qu'aujourd'hui, j'imagine
pas. Dans le mauvais sens de la courbe.
J'imagine pas un Memphis faire un trade pour lâcher Ja Morant.
Qu'est-ce que tu donnerais contre Zach LaVine ? C'est ça la question, Pierrot.
Eh ben, peut-être un Damian Lillard, justement. C'est pour ça que je parle de ce genre de profil.
Zach LaVine qui prend le jackpot avec une player option jusqu'en 2026-2027.
Et c'est son premier, sa première année, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est sa première année de contrat. Après, pour moi, LaVine DeRozan, déjà, ça ne matche pas. Ce n'est pas du tout complémentaire. Ça ne va pas. Moi, je préfère largement DeMar DeRozan à Zach LaVine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Je pense que tout le monde est un peu d'accord avec ça.
En termes de leadership, de charisme, d'efficacité, un mec qui a connu le très haut niveau, c'est quand même DeMar DeRozan qui a connu
Zach
à Toronto.
LaVine, il y a une problématique, c'est qu'il va continuer à scorer, mais parfois ses pourcentages ils sont catastrophiques quand même.
Exactement. Et puis c'est une équipe qui est.
Faux bon joueur en gros.
Non, ça t'abuse. C'est un bon joueur, mais pas.
Moi, je suis pas loin de rejoindre Pierrot.
Ah non, t'abuses. T'abuses.
Je pense qu'on est pas loin de l'arnaque, Zach LaVine.
Ouais, non, c'est
déjà le nom. Déjà le nom est chelou. Excusez-moi.
Le nom, ça m'a fait jouer au JS à Bordeaux déjà, Zach LaVine.
C'est dirait un vieil Américain qui a une troisième carrière exactement en France dans un club de seconde zone.
Je sais pas si vous avez vu, il y a une interview. Enfin, c'est même pas une interview, c'est une vidéo d'Austin Rivers, le fils de Doc Rivers, qui tourne en ce moment sur Twitter, où il fait un petit peu le point sur les joueurs NBA d'aujourd'hui et ceux d'il y a un peu 10 ans, dans la manière dont ils sont formés dans le moule NBA aujourd'hui. Et il dit, en gros, je grossis les traits, mais la plupart des stars qui arrivent aujourd'hui en NBA font ça que pour les stats et machin, pour se montrer et tout. Et il dit, ils ne savent plus jouer au basket.
Eh ben, Zach LaVine,
je pense,
il incarne ça.
C'est ça. Mmh. Tu veux un exemple de ce type de joueur, Zach LaVine ? Il était détestable quand il était à UCLA à la fac. Il a un père qui, tu sais, les pères qui sont à fond sur leurs gamins et qui les oppressent.
Sorte de la Melo Ball ?
Ouais,
de la VAR Ball.
Comme par hasard, hein, tous ces mecs qui sont à Los Angeles. Mais ouais, c'est ça. Il a souffert de ça. C'est pas un, voilà, c'est je vais être insultant, mais c'est pas un vrai super
c'est
joueur
pas,
de NBA.
C'est pas un mec
basket.
qui va te faire grandir
c'est
dans une équipe.
C'est pour ça que les Européens sont en ce moment à la cote aussi, alors. Vu ce que tu me racontes là, de l'interview de.
Ah ouais, c'est pas du tout un bon Doncic, quoi. Ouais.
Alors, après, au-delà de ça, est-ce que cette franchise a un problème avec son passé ? Est-ce que ça, c'est du fantasme ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est réel ? Qui pourrait incarner le renouveau des Bulls ? Quel genre de joueur ? Est-ce que le joueur existe ? Est-ce que vous en voyez un là, dans la ligue actuellement ? Un mec qui pourrait reprendre cette franchise en étant le leader et les monter très haut. Comme on attendait de D-Rose, quoi, en gros.
C'est dur ce que tu dis. Ouais, le problème, dur. C'est que D-Rose est drafté par les Bulls. Ça veut dire qu'il faut drafter, il faut drafter un mec qui va être le visage de la franchise pendant X années.
Ça peut arriver ?
Après, le problème, c'est qu'ils vont finir en play-in quand même. Les Bulls, s'ils sont mauvais, ils vont finir en play-in.
Il faudrait qu'ils aient un coup de chance.
Malheureusement.
Non, je pense que si t'es en play-in, tu peux pas avoir le premier choix.
Je crois que c'est les. Il y a combien d'équipes qualifiées en play-off ?
En tout cas, ton pourcentage est plus faible.
Si tu peux.
Mais ton pourcentage est faible.
Pratiquement, oui, parce qu'il y a les 16 équipes qui vont
entre Détroit et Chicago, à l'heure actuelle, vaut mieux être Détroit pour avoir Victor.
Bien sûr. Mais sur la question que je posais, est-ce que cette franchise a un problème avec son passé, Alex ?
Un problème avec la draft ?
Oui. Moi, je pense que je peux le dire honnêtement, oui. Évidemment, encore une fois, Stephen l'a rapidement dit tout à l'heure, mais quand tu as eu le meilleur joueur de l'histoire iconique dans ta franchise. Avec les histoires que l'on sait autour des dirigeants à l'époque, parce que c'était le bras de fer avec Jojo, pour reconstruire déjà, ça a été fatal. Enfin, je ne sais pas si on se souvient des Chicago Bulls du début des années 2000. C'est dégueulasse à voir. Hein. C'est franchement ça, très
très
moche.
Mais là, c'est normal.
Ça, c'est la vie normale d'une franchise américaine.
Ça, d'accord. Après, ça, c'est normal,
d'accord.
Quoi.
Mais
là,
la
là,
seule.
On est 23 ans après, quand même.
La ouais, c'est vrai, il y a quand même un peu de temps qui est passé, quoi.
Exactement. Et la seule réjouissance que tu as eue, c'est une équipe de guerriers à l'époque de Joachim Noah avec. Kirk Henrick, Lou Holdeck. Bon, c'était des valeureux soldats, des mecs qui ont joué en équipe et qui ont fait plaisir à ce public-là.
Mais moi, j'ai une question. Alex, j'ai une question pour toi, quand même. Quand DeRozan, Lavine, Ball et Vucevic sont dans l'équipe, tu te dis pas, il y a peut-être un truc qui est en train de se passer.
Tu te dis pas que c'est des guerriers, en tout cas.
Non, tu dis pas que c'est des guerriers, ça, c'est une évidence. Mais tu te dis pas que finalement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, que ça peut peut-être bien jouer au basket, etc. Bah, moi, je sais que je me suis pris un peu à rêver.
Contrairement à l'équipe de Joachim Noah, je me dis qu'il n'y a rien qui se passe du tout. Hein. Il n'y a même pas une flamme auprès des supporters.
Même au début, quand
tu regardes même la fanbase de Chicago, qui est pourtant une fanbase qui connaît le jeu et qui connaît la NBA. Mmh. Même elle, franchement, elle est tiède de chez tiède en ce moment. Parce qu'il y a...
Oui, mais en ce moment, je te parle au début, il n'y a pas eu un peu de.
Quand il trade et qu'il récupère Vooch, l'année dernière, quand DeRozan arrive avec Lavine, t'as une petite excitation.
Ils sont sixième, ils finissent sixième, c'est bien.
T'es sur une petite mimole, hein, je te le dis tout de suite, hein, quand même, Alex, quand t'as les trois qui sont là.
Je suis d'accord.
Franchement, je suis comme le temps dehors. Franchement, moi, j'étais moyen. Vraiment.
Ouais. Après, le problème,
c'est pas des joueurs qui m'excitaient.
Le problème, c'est que Zach Lavine est le plus ancien de cette équipe et est censé être le visage là. Sauf que DeMar DeRozan est arrivé l'année dernière et a été très bon.
Il a vite
fait de l'ombre à Zach Lavine, où c'est le joueur sur lequel la franchise a misé à long terme.
Et ils avaient de la personnalité, ils gagnaient des fins de match plus que n'importe quelle autre équipe.
Mais après,
il y avait quelque chose qui se dégageait.
C'est une équipe qui est paradoxale parce que cette année ils ont tapé les Bucks, ils ont tapé Philly, ils ont tapé
Brooklyn,
Boston, ils
manquent de
Brooklyn,
ça c'est une
évidence. Ils perdent Houston, Orlando,
ils battent les Warriors
Spurs,
là.
Encore une fois, ils défendent pas, ils sont trop dépendants du shoot de Lavine quand ils marquent.
Je dis, cette équipe est tiède.
Oui, mais maintenant, encore une fois, moi, honnêtement, j'ai eu un peu de fantasme quand j'ai vu arriver tout le monde.
Et quand t'as pas Tosh Williams, tu nous en dis un mot ou pas?
Tosh Williams, c'est sa deuxième saison, rookie, poste 3, qui est censé défendre, mettre des points.
Même lui, on me l'a survendu comme une star.
Moi, Patoch, sur ma Fantasy League ESPN, je l'ai pris, Patoch. Il m'a vendu du rêve.
Non, mais rappelez-vous de Caruso aussi. Quand il est arrivé là-bas, tout le monde a dit ouais, c'est extraordinaire.
Le problème, c'est que des Patrick Williams aux États-Unis, il doit y en avoir 160 000. Ils sont peut-être trompés.
Patrick Williams.
Alors, on va parler de Détroit maintenant, puisque ce Basket Time, c'est un spécial NBA à Paris. Le match est jeudi soir, Chicago-Détroit. Et à Détroit, il y a un Français prometteur, c'est Killian Hayes.
Killian Hayes hitting a three. Hayes, a little mid-ranger this time. Killian Hayes gets in tight and fires.
Killian Hayes, spot up three. Killian Hayes is having a night.
Killian looking to drive, pulls the mid-ranger again and scores.
Good steal by Killian Hayes. Another one. Killian Hayes with the floater. Pardon his French.
Man.
Working without the basketball. Tough shot from Killian Hayes.
Alors, Killian Hayes a-t-il un avenir en NBA? On va se poser la question. Mais d'abord, on va l'écouter parce que tu l'as rencontré l'après-midi où on enregistre ce podcast, Stephen. Donc, oui. On va écouter cette interview. Ensuite, on débat de ses débuts en NBA et de son avenir. Meneur de jeu, je vous le rappelle, révélé à Cholet et à Ulm, en Allemagne, drafté il y a 3 ans déjà, qui a trouvé sa place dans la rotation de Détroit sans problème. Mais la NBA est un univers impitoyable, donc il va falloir montrer encore plus. Voici donc l'interview de Killian avec Stephen.
Killian, merci. Merci d'être avec nous ici à Paris. Ça fait 3 ans que la NBA n'est pas venue. C'était en 2020 pour un Bucks Hornets. Comment toi, tu as appris la nouvelle au mois de mai en 2022 quand tu dis « Ah, ça y est, c'est mon équipe, on va à Paris ».
Ouais, j'ai appris il y a un moment déjà. Et c'était dur de garder secret parce qu'il fallait que je dise à personne. Mais ouais, j'étais très excité. Vraiment, c'est une chance de venir ici jouer un match parce qu'il y a beaucoup d'équipes NBA qui auraient pu être à notre place. Et ouais, c'est vraiment, on a vraiment eu de la chance et on est content d'être là.
C'est quoi l'atmosphère dans l'équipe? Est-ce que tes coéquipiers t'ont dit Killian, parle-nous de Paris, qu'est-ce qu'il y a à faire?
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gars, c'est leur première fois qu'ils viennent à Paris, en Europe, du coup, ils sont excités, c'est la Fashion Week en plus, du coup, ils vont faire le shopping un peu, du coup, ouais, tout le monde est content.
T'as prévu un petit aller-retour express à Cholet ou pas?
Ouais, je vais essayer d'aller voir ma grand-mère là-bas et de passer voir ma famille aussi.
On va parler de ta saison avec Détroit. J'imagine c'est un double sentiment pour toi parce que individuellement ça va bien, t'es très bon, t'es performant, t'es consistant et collectivement il y a du mal à gagner des matchs. Comment tu la vis toi cette saison?
Ouais, y a eu des bons matchs, mais aussi ouais, le but c'est de gagner. Des fois ça peut être frustrant, surtout mentalement quand t'enchaînes les matchs comme ça, mais on reste connecté et on a vraiment confiance. Du coup ouais, c'est une longue saison, on a encore beaucoup de matchs et ouais, faut rester concentré sur ça.
Comment t'expliques, est-ce qu'on peut parler de déclic pour toi cette saison? Comment t'expliques cette transformation par rapport aux deux premières saisons qui étaient un petit peu plus compliquées et cette année où bah, tu fais ta plus belle saison?
Ouais, mon rôle a changé un peu. J'ai commencé à starter avec la blessure de Cade. Et ouais, j'ai commencé, mes tirs ont commencé à rentrer. Puis après, il y a de plus en plus de confiance. Et ouais, le coach me fait confiance, mes teammates me font confiance. Et ouais, ça continue. Je prends les mêmes shoots que je prenais avant. Juste, ils rentrent et je les prends avec plus de confiance. Et ouais, ouais, c'est cool, quoi.
C'est quoi ta relation avec ton coach Dwayne Casey? Je sais qu'au début de saison, en conférence de presse, il t'avait un petit peu piqué les fesses en disant « Kylian, c'est pas le même joueur qu'en pré-saison, il faut qu'il grandisse un petit peu ». C'est quoi ta relation que t'as avec ton coach?
Non, j'ai toujours eu une très bonne relation avec coach Casey. Casey, c'est vraiment quelqu'un qui pense à toi en humain en premier. Et ouais, c'est vraiment un bon coach et ouais, c'est vraiment un bon gars aussi.
Est-ce qu'à un moment, tu te dis « cette saison, c'est peut-être ma dernière chance à Détroit de réussir à Détroit ».
Non, je vois pas ça comme ça. Après, je pense que ouais, chaque saison, on m'a donné ma chance. Et puis là, comme j'ai dit, les tirs commencent à rentrer. Et puis, on voit les choses changer un petit peu. Et ouais, je vois pas vraiment les choses comme ça.
Comment t'as vécu le fait que toi, t'es drafté en 2020. L'année d'après, il redraft un meneur qui est Kate Cunningham. Comment t'as vécu ça, toi?
Après, ça, c'est pas mes décisions. C'est les décisions du front office. Kate, c'est un très bon joueur. C'est un de mes gars aussi. Et ouais, c'est juste comme ça. Après, on s'adapte. C'est mon combo guard. Et puis, ouais, c'est quand j'ai dit, c'est le front office décisif. C'est pas moi, je suis juste joueur.
Ce Bulls Pistons, ça va nous raviver pour nous, les anciens, les rencontres ancestrales dans les années 90. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu as vécu, toi, ce côté historique, Bulls Pistons?
Non, je crois que je n'étais pas né encore. Mais ouais, on a surtout l'histoire entre Détroit et Chicago. C'est très physique avec Jordan.
Les bad boys,
voilà, Dej Rodman, tout ça, Isaiah Thomas. Mais ouais, après, ouais, c'est un très gros match pour notre franchise.
Est-ce qu'il y a encore cette rivalité quand vous recevez les Bulls à Détroit au niveau des fans? Est-ce que tu sens que c'est un match différent des autres?
Après, c'était il y a longtemps. Après, je pense que les temps ont changé un petit peu, mais il y a toujours les fans, ils sont toujours excités quand on joue les Bulls.
Maintenant, ça fait c'est ta troisième saison dans la Ligue. Tu as pu observer toutes les équipes, tous les joueurs. Fais-moi un top 3 des joueurs pour toi qui sont les meilleurs de la Ligue où tu t'es dit, waouh, voilà, c'est vraiment trop fort.
Les top 3, je pense, je vais dire les plus durs qui sont à défendre. Du coup, je dirais Luka Doncic, Giannis et Brooklyn, c'est dur parce que c'est je dirais KD et Curry, les deux en même temps. C'est vraiment, c'est chaud de les garder tous les deux.
Tu m'as donné deux meilleurs de jeu. Bon, Yanis, j'imagine que tu défends rarement sur lui. Ouais. Tu m'as donné Lucas et Kairi. Justement, parle-nous un peu de Lucas Doncic. Ses performances sont hors normes, avec des qualités qui sont un peu différentes. C'est pas un mec qui met la tête au cercle. Il joue avec. Comment on défend sur un mec comme ça?
Il est grand, il est costaud, et il joue à son rythme à lui. Du coup, c'est dur parce qu'il est très bon dans son espace et c'est soit tu prends le stay back away, soit tu le laisses driver et il peut trouver les passes. Du coup, c'est quelqu'un qui est vraiment très hard à guard.
On va voir la page équipe de France, qui a une histoire un peu compliquée avec toi, même si en jeune, c'est bien passé en U16 et U17. Il y a eu cette espèce de quiproquo en U20 avec Jean-Aimé Toupagne. Il y a eu peut-être, tu as refusé l'invitation pour être partenaire d'entraînement pour les Jeux. T'en es où, toi, dans ta tête avec l'équipe de France maintenant?
Non, comme je disais, c'est quelque chose que je veux faire. Je veux aller au championnat du monde cet été. Après, comme tout le monde, je vais y aller. Il faut que je gagne ma place, il faut que j'aille au training camp. Et ouais, ça part de là. Mais ouais, moi, je suis très intéressé par faire le championnat du monde cet été.
À ton poste, on sait que c'est un peu plus ouvert. On sait que sur le secteur intérieur, c'est blindé. Toi, à ton poste, sur le poste de meneur de jeu, il y a plus d'ouverture. On sait que Thomas Hurtel, avec sa décision de partir en Russie, ça a un peu fermé les portes. Est-ce que tu sais que tu as conscience qu'il y a une énorme opportunité pour toi d'enchaîner en un an et demi la Coupe du Monde et les Jeux à Paris?
Ouais, parce que ouais, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire et c'est quelque chose que je veux faire aussi. Et comme j'ai dit, ouais, la place, elle n'est pas donnée, il faut que je la gagne. Peu importe qui y a, il faut que je m'adapte au style de jeu, à coach Collet. Et ouais, enfin, je suis très content et je suis excité d'aller en équipe de France.
Justement, en équipe de France, tu pourras retrouver un garçon qui fait beaucoup parler de lui cette année, qui est Victor Wembanyama. Comment il est perçu, justement, outre-Atlantique ou même au sein de ta franchise des Pistons? Est-ce que tu as des coéquipiers à toi qui te demandent des renseignements sur Victor?
Ouais, pareil, tout le monde en parle un peu. C'est vraiment un prospect qui est générationnel, qu'on ne voit pas tous les jours. Et, après, nous, le premier pick, tu vois, ce n'est pas notre job, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui aux États-Unis.
Justement, tu parlais du premier pic. Détroit va peut-être, si ça continue comme ça, être dans la tendance pour avoir le premier pic. Ça serait kiffé quand même de retrouver un Frenchie à Détroit, un axe meneur pivot en plus, enfin un meneur poste ailier fort qui pourrait être plutôt sympa, non ?
Non, c'est un très bon joueur qui peut aider n'importe quelle équipe dans laquelle il va aller. Et ouais, comme j'ai dit, c'est pas notre c'est le front office, tout ça. Et ouais, s'il vient avec nous, je serais très content aussi.
On va terminer. Tu sais que toi et moi, on a un point commun. On a été formés à Cholet. D'ailleurs, je me rappelle de toi tout petit à la mairie à faire des tirs. On va finir. T'es bon, t'es chaud sur les quiz ou pas ? Faut que tu me cites tous les joueurs formés à Cholet qui ont joué en NBA. Avec toi, il y en a 7. Donc, il y a 6 noms à me donner. Okay. C'est juste à te remémorer les bannières en haut.
Donc, il y a Nando, Mike Djellabal, Kevin Serafin, Rudy, Rodrigue Beaubois.
Le dernier, c'est pas ta génération, mais c'est un des très grands joueurs de Cholet.
Ah!
Un meneur de jeu de grande taille.
C'est un meneur de jeu de grande taille.
Son surnom, c'est le roi. Son surnom, c'est le roi.
Le roi? Comment j'oublie ça?
Antoine?
Rigaudeau. Antoine Rigaudeau.
Voilà. Antoine Rigaudeau. Merci beaucoup, Kylian. Fais un bon match à Paris. Merci. Et puis on a hâte de te voir sous le maillot de l'équipe de France. Merci beaucoup.
Est-ce que t'es hard to guard, toi
Ça n'est pas le front office. Ça n'est pas le front office.
Bon, ça y est, il est américain, hein. C'est fini. Là. Parle comme un américain.
Ah, moi, j'avais pas vraiment de doute là-dessus. Hein. C'est une double culture, élevé par un papa d'Aaron qui est américain. Donc, même s'il habitait à Cholet, parlait anglais en permanence à la maison. Donc, voilà.
Bon, alors, l'avantage, c'est que ça va l'aider probablement dans la NBA.
Oui. Il ne faut pas qu'il dise à Vincent Collet, What's up, coach? How are you doing?
Maintenant, quel avenir vous lui voyez? Est-ce que ça sera un role player ou est-ce qu'il peut aller plus haut que ça, Alex?
Compliqué, c'est la bonne question, ça.
Non, parce que sur ces trois saisons, actuellement, il joue sa meilleure. Parce qu'en termes de minutes, il n'y a pas d'évolution. Il est autour de 25-26. Il n'en a pas plus cette année.
Il profite de l'absence de la blessure de Dante.
Oui, mais il n'a pas plus de minutes. En revanche, ses stats s'améliorent. Donc, ce qui veut dire qu'il est en progrès, assez clairement. Après, je pense que vous...
Sur ses pourcentages.
Vous constatez aussi sur les matchs.
C'est plutôt la question des pourcentages qui me rassure par rapport à ces deux premières saisons qui sont absolument abominables là-dessus. Je crois qu'il était à 35% au tir, hein, pas juste à 3 points, mais à 35% au tir lors de sa première saison. Il y a eu cette énorme blessure à la hanche. Parce qu'il faut rappeler qu'il est drafté 2020, il y a la pression de français tellement drafté si haut. Mais en plus, on oublie qu'il arrive la saison où il y a eu le Covid, c'est-à-dire que la NBA a démarré en décembre, pas fin octobre. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Il a eu beaucoup moins de temps pour s'y faire. Il se blesse au bout de 7 matchs.
Il revient. Tu l'as dit, hein, t'as raison. Très importante cette blessure. Hein.
Plus Covid, il a tout pris dans la tronche, le pauvre, plus la place de draft. Donc sa première saison est à mettre aux oubliettes. Sa deuxième saison, il n'arrive pas à s'intégrer. C'est là où on commence vraiment à s'inquiéter. Il faudrait que Kylian revienne peut-être en Europe, etc. Et là, enfin, on est rassuré, Pierrot. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas griller les étapes non plus et le voir plus beau qu'il ne l'est.
C'est quoi la prochaine étape pour toi ?
La prochaine étape, c'est qu'il faut qu'il arrive...
Le problème, c'est qu'il ne sera jamais titu à Détroit.
Ouais, mais déjà, il faut qu'il ne sorte pas de la rotation.
On en est là.
À côté de lui, t'as Jaden Ivey qui vient d'être drafté parmi les hauts draftés de la dernière draft et qui est très très bon, il fait partie des meilleurs rookies. Oui. Cunningham, quand il va revenir de blessure, ça prend de la place tout ça. Donc est-ce que l'avenir de Kylian passe peut-être par un trade ? Est-ce qu'il passe finalement par des objectifs un peu plus bas et c'est un garçon qui doit se mettre au service du collectif plutôt que d'en attendre d'être un scoreur ?
Et pourquoi pas dans la second unit,
un
joueur important de la second unit ?
Le temps va être son ami, même si en NBA apparemment on n'a jamais le temps.
Le temps, c'est un peu compliqué quand même.
Fred ?
Non, je suis assez d'accord. Moi, je le vois bien jouer dans la seconde unité, apporter un petit peu d'énergie.
La deuxième unité.
C'est pareil, du coup. La deuxième unité. Ben, je sais pas comment.
La deuxième équipe.
Dix
secondes unité, ça me va, c'est pas grave. On est dans le basket time, on est donc, des Américains.
Ça plus G, you
know. Et sachant que sur les 5-6 derniers matchs, il a plus de 15 points de moyenne. Donc, il marque quand même un peu les esprits en disant OK, on peut compter sur lui. C'est plus complètement le rookie qu'on a connu au début. Alors, oui, Cunningham va revenir, il va perdre du temps de jeu, évidemment. Mais s'il est bon en sortie de banc, il peut être intéressant.
Et effectivement, Jaden Ivey a déjà beaucoup plus d'influence sur les matchs de son équipe.
Hein. Ouais, Kylian en ce moment a quand même une énorme influence sur les rencontres de Détroit.
Ivey plus scoreur en plus.
Ouais, après,
Après, Kylian, je pense qu'il n'est pas passé loin de la correctionnelle en NBA. Après ses deux premières saisons où il est totalement passé au travers, et j'étais surpris, mais pas du bon côté, parce que je pensais qu'il avait un jeu qui était vraiment fait pour la NBA. Gaucher, slasher, athlétique, capable de finir chez les grands, sur les grands, avec un petit crossover, un petit step back 3, qui était, enfin, il avait toutes les armes pour exister. Et on s'aperçoit qu'en fait, il a pris le mur de la vitesse NBA, de l'intensité physique, avec des
tous ses pourcentages très bas aussi.
Tous ces pourcentages très bas, parce que adaptation à la ligne à 3 points très loin, il a eu du mal à s'adapter.
Ça remonte.
Oui, ça remonte. Il a 33%, il a 33%, il était à 26%. Et au bout d'un moment, moi, je me suis dit, waouh, deux années comme ça, je suis pas loin de penser qu'il va peut-être sortir de la ligue, Kylian Hayes, parce qu'il y a du monde qui arrive. Et il s'est bien relancé. Il travaillait sur son tir cet été, travaillait sur son corps. Le fait que Kate Cunningham soit out, ça lui permet d'être dans le 5. Il a encore la confiance de son coach. Et puis on se rend compte, il y a un paramètre à prendre en compte, Pierrot. C'est qu'il a 21 ans. Mmh. Il est arrivé en NBA, il avait 19 ans, Kylian Hayes. Ouais. Il est jeune, il est encore très jeune et il va progresser. Et ce qu'il montre aujourd'hui.
Il sortait de l'Eurocoupe aussi. Hein.
Oui.
C'est quand même un gap énorme. Déjà avec l'Euroleague, c'est un gros gap, mais avec l'Eurocoupe.
Et aujourd'hui, dans une équipe qui gagne peu de matchs, et ça, c'est pour moi le vrai point noir, mais on sait que ça existe en NBA, il est bon, il fait son record en carrière cette année au point avec 26, il fait son record carrière en passe, il a énormément progressé sur les lectures de jeu, il a fait des matchs à 12, 13, 10 passes décisives sur un match, donc il est en train de montrer à toute la NBA qu'il peut exister dans cette ligue, et il s'est bien relancé parce qu'à un moment donné, je te le dis très honnêtement, j'ai craint le pire.
Et alors pour l'équipe de France qui cherche un meneur, est-ce que ça peut être la solution? Lui il dit j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire les championnats du monde,
c'est important d'avoir
l'été prochain. Vincent Collet a dit qu'il est dans les radars. Est-ce que c'est une solution à court terme pour l'équipe de France?
Mais concrètement, on s'en est plaint plusieurs fois que sur le poste de meneur, on a beaucoup de difficultés. Si lui réussit à s'imposer en NBA, même si c'est dans la deuxième équipe, c'est intéressant. C'est hyper important d'avoir des meneurs, de continuer à avoir cette menace extérieure, parce qu'on sait qu'on est en manque sur ce poste, et un joueur comme lui, ça peut être hyper important.
Il y a des carences sur le poste de meneur de jeu, on le sait. Thomas Hurtel s'est un petit peu mis hors jeu en allant en Russie.
Ça peut-être que ça changera.
Andrew Albici est plus sur la fin que sur le début, et qu'il y a une vraie carence sur le poste de meneur de jeu. Maintenant, attention, parce que Kylian Hayes, et tu l'as remarqué dans son interview, Pierrot, est très formaté NBA. Il y a un autre garçon qui a fait son apparition cet été, qui s'appelle Théo Malédon, qui est revenu avec une mentalité NBA. Ça n'a pas du tout matché avec Vincent Collet et l'équipe. Il était plus dans un...
Ça n'a pas matché d'un point de vue basket ou point de vue mentalité?
Les deux. Point de vue basket, il cherchait beaucoup à scorer pour lui. Et on sait que Vincent Collet, il aime bien quand même meneur, quand il y a un minimum d'organisation.
Jeu, quoi, ouais.
Donc j'espère que Kylian Hayes...
Il n'est pas un peu meilleur passeur que Théo Malédon.
Si,
donc
peu,
déjà, ça peut aider.
Exactement.
Un peu.
J'espère qu'il n'a pas oublié ses années de formation à Cholet et à Ulm en Eurocup, et qu'il a quand même encore une base de jeu FIBA international où la défense, eh ben, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en NBA. Donc j'ose espérer qu'il va pouvoir se reformater dans un jeu FIBA, parce qu'il a, il a une vraie opportunité en un an et demi de faire la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques à Paris, Kylian Hayes.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres prétendants.
Pour moi, si je pense à un meneur là qui a du potentiel, c'est Sylvain Francisco. Du coup.
Ouais, Sylvain Francisco qui a fait des fenêtres, qu'on a vu avec l'équipe de France.
Qu'on a vu qui était capable de s'adapter et de faire des.
Donc, moi j'ai envie de voir Kylian Hayes avec l'équipe de France.
Il joue où celui-là?
Il joue en Grèce, Peristeri
avec Vasilis Panoulis comme coach.
Très bien.
En BCL,
il est bon.
Basketball Champions League. Très bon avec l'équipe de France.
Alex, pour Kylian Hayes en bleu, qu'est-ce que t'en penses?
Il ne faut pas qu'il loupe ce rendez-vous-là. Il a déjà eu un joker avec... En plus, c'était une histoire très compliquée, une sorte d'imbroglio avec l'équipe de France. Mais il ne faut pas qu'il loupe ce train-là, parce que je suis d'accord avec Stephen. Pour moi, il a le potentiel et la fenêtre de tir bien plus ouverte en comparatif avec un Théo Malédon. Je ne suis pas là pour bâcher Théo Malédon ou encenser un tel et un tel, mais quand je me souviens du tribunal correctionnel, j'ai envie de dire, au niveau de la critique sur Kylian Hayes au moment où il arrive en NBA et que Théo Malédon, lui, flambe avec OKC, encore une fois, c'est bien de rappeler à tous ces gens qui en ont condamné un à l'époque de leur dire que c'est un contexte avant tout, la NBA, et qu'aujourd'hui, vous prenez troisième saison pour les deux, les trajectoires.
Ouais.
Mais Kylian Hayes, avec son jeu développé à Ulm en Eurocup, il n'a pas perdu ça. Il va falloir vraiment...
Tu comptes dessus, toi?
Je miserai dessus, et je pense que Vincent Collet a intérêt de miser dessus, parce qu'il a un vrai potentiel entre les mains, mais Collet va devoir faire un énorme taf avec lui.
Oui. Mais Vincent Collet, c'est pas du genre à faire du politiquement correct ou dire ce qu'on a envie d'entendre. S'il dit qu'il est dans les radars, c'est qu'il est dans
les radars. Alors pour
objectivement, il est obligatoirement dans les radars.
Alors pour te dire, j'ai envoyé un texto à Vincent Collet pour préparer l'interview ce matin en disant est-ce que c'est un garçon tuyau. Il m'a dit oui, effectivement, on le regarde attentivement. Je suis pas encore allé le voir. D'ailleurs, il devrait profiter là de Kylian Hayes à Paris pour éventuellement aller faire une rencontre.
Qu'est-ce que c'est bien ces matchs délocalisés de la NBA.
Ça permet. Fait loin Boulogne-Bercy quand même.
Donc voilà. Après, on oublie un paramètre important, on n'en a pas du tout parlé, c'est que Kylian Hayes est un bon défenseur. Ah. Il vole des ballons, il a une activité des mains, il a des longs segments pour un meneur de jeu, il vole des ballons, et on sait que Vincent Collet, ça l'intéresse.
Il
a des grands segments, et un meneur défensif, c'est intéressant.
Donc en plus, il peut faire des passes et faire jouer à l'équipe, et maintenant retrouver un peu de shoot, ouais, c'est intéressant.
Donc le back court des Bleus à Paris 2024, c'est Sylvain Francisco, Kylian Hayes. Avec Nando, bien sûr, dans
l'histoire. Nando de Colo, Evan Fournier, Nicolas Batum, Joël Embiid, Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mustapha Fall, Vincent Poirier. C'est incroyable.
Non, mais ça fait une belle équipe, hein, on le sait.
Ah,
hein,
ça fait une belle équipe.
Champion olympique ou pas?
Non. C'est trop dur.
Pour la pique,
après, attention aux Canadiens
par
aussi.
Par contre, médaille, oui.
Je sais qu'à chaque fois, on a ce fantasme, mais si les Canadiens sont au complet.
Alors, il fait toujours la même chose
chaque année. Hein, si
oui,
les
mais
Canadiens
c'est pour ça. Je sais
complet,
qu'on a ce fantasme. Mais quand
c'est
tu
le truc qui dure depuis 15 ans, Pierrot. Si les Canadiens sont au complet.
Si les Canadiens. Pierrot, t'as le choix.
C'est vrai.
Oui, mais je suis d'accord.
T'as le choix, Pierrot. Soit tu prends une place pour aller voir à Bercy jeudi Pistons Bulls, ou une place pour aller voir France-USA en finale des Jeux Olympiques.
Tu crois que je vais hésiter, toi? Alors, tu sais que je me suis inscrit.
Moi aussi, j'attends
Paris 2024. Si j'ai la chance d'être tiré au sort parmi les premiers, première chose que je prends, c'est la finale du basket, hein, bien sûr. Pour y aller avec mon gamin qui joue au basket, si possible.
Oui. Parfait. Et tu vas avoir un bon Slovénie-Canada avec Luka Doncic et Andrew Wiggins, ça va être très bien.
Je serais ravi. Et Karl Anthony Towns.
Il est pas
canadien.
Bahamas.
Non, mais chez Gigus Alexander.
Chez Gigus Alexander, canadien.
Ça peut être sympa.
Bahamas, pas sûr qu'ils soient en finale.
On sait jamais s'ils touchent une génération. C'est Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Un spécial NBA à Paris, le match Chicago-Détroit, c'est jeudi soir. Et tout de suite, eh bien, c'est la partie historique. Vous allez me dire quel est le plus grand événement NBA de l'histoire en France.
Les Los Angeles Lakers, meilleur club américain des années 80 et donc meilleure équipe du monde, opposé à Limoges, capitale française du basket.
Je suis super content d'être ici à Paris-Bercy.
C'est à Monaco que la plus belle équipe de l'histoire du monde prépare les Jeux Olympiques de Barcelone.
Pour le match San Antonio-Memphis, j'espère que vous allez passer un super moment.
C'est ce que les Américains appellent alley-oop.
Alors, quel est le plus grand moment?
Alley-oop, c'est français. Ça vient de alley-oop.
Par contre, il y a une énorme erreur, ce que j'ai entendu. J'ai entendu la capitale du basket en France, Limoges.
Bien sûr, c'est pas faux. Hein.
C'est vrai.
C'est ni Cholet.
Là, c'est pas une énorme erreur. C'est fantastiquement vrai.
Alors, attention, quel est le plus grand moment de la NBA en France? Alors, il y a les matchs, bien sûr. On a entendu quelques extraits assez sympas, d'ailleurs. Mais il y a aussi les venues de Michael Jordan, hein, qui avait créé une hystérie collective absolument dingue. Il y a bien sûr le match la Dream Team à Monaco en 92. J'imagine juste, et je ferai juste une petite parenthèse là-dessus, les mecs qui sont passés de Los Angeles à Limoges, ça a dû leur faire un choc quand même, non?
Mais c'est pas à Limoges, c'est à Bercy le match.
Ah, c'est à Bercy,
c'est l'Open McDonald's, c'est à Limoges.
Non, mais déjà, calme-toi.
Le mec qui est arrivé, il a dit « This is the gare SNCF Saint-Bénédictin. Oh,
c'est
belle gare de France. It's beautiful.
» Il y avait qui? Il y avait Magic.
Magic,
oui.
Bon. Alors, qui commence? Stephen.
Écoute, moi j'ai pris 1994, tu vois, j'ai 14 ans, j'habite à Annecy, je suis fan de basket, je collectionne toutes les cartes Upper Deck, je connais tous les noms par cœur, bien plus que mes cours de français d'ailleurs, ou le théorème de Thalès.
Tu l'as le théorème de Thalès?
Non, pas du tout.
Toujours pas?
Non, pas du tout. Et je profite de l'abonnement de mon père à l'époque au VHS Pontel, tu te rappelles? Ils envoyaient des matchs NBA, je connaissais tout par cœur, parce que l'NBA à l'époque, quand tu voyais un match à la télé, t'étais content. Et donc la NBA débarque à Paris pour la première fois pour un match de pré-saison avec deux équipes mythiques, les jeunes Warriors de Chris Mullin, qui était membre de la Dream Team en 92, Tim Hardaway, Latrice Sprewell, et les Hornets. Les Hornets, ça faisait kiffer les gamins comme moi, parce que le logo était magnifique, le frelon, les couleurs, on voulait tous un t-shirt des Charlotte Hornets. Exactement, donc ça faisait kiffer. Et les Hornets, c'était Larry Johnson, Del Curry, le papa de Stephen, notamment Michael Adams, tu te rappelles le petit filou, là, le petit meneur Michael Adams. Et ce match-là, en fait, il a surtout été marqué par une photo iconique entre Manu Ball, le Soudanais qui faisait 2m31, qui jouait pour les Warriors,
et
Muggsy Bogues, le meneur des Hornets. Et c'est 1m60, tu la vois cette
photo? Avec les trois ballons.
Exactement.
Les trois ballons.
Donc c'est une photo iconique, c'est un match qui était à guichet fermé bien entendu, et la France ce jour-là elle a rattrapé son retard parce que l'Italie avait déjà accueilli un match NBA en 84, c'était un Phoenix Suns New Jersey Nets, et l'Angleterre en 93 avait déjà accueilli une double opposition entre Orlando et Atlanta. Donc voilà, c'était les prémices de l'NBA.
C'est un souvenir d'enfance quoi.
Exactement, et j'aurais pu choisir un autre truc, et j'espère que Fred nous en parlera. J'ai retrouvé un article de journal de l'équipe, et j'ai vu que Fred Weiss avait affronté à Bercy Charles Barkley, Gary Payton et Reggie Miller et Vin Baker.
Exactement.
Une fois. C'est vrai, ça ?
C'est vrai.
Et tu vas nous parler de ça ?
Pas du tout.
Alors, dis-nous-en un mot avant de nous parler du plus grand événement NBA en France.
C'était pour Nike. Ils avaient fait une sélection des Français Nike,
Prospect,
en gros.
Ouais, Nike, ouais. Ouais.
Et on nous avait dit, on va jouer contre une sélection américaine, mais on ne savait pas exactement qui il y avait.
Et quand là, on t'as est vu rentré, départ pas Tosh Ewing.
Je crois qu'il y avait Reggie Miller aussi.
Il y avait
une
Baker,
équipe
Charles
incroyable.
Barclay,
et donc, j'ai joué contre Charles Barkley.
Et
c'est là que je me suis rendu compte que Charles Barkley était un monstre physiquement, parce qu'il nous a baladé. On était trois autour de lui, il nous a fait tomber tous les trois.
Il t'a trash talk un peu ou
pas ? Il n'a pas du tout. Il était extrêmement sympathique, et tellement sympathique qu'à la fin, je lui ai dit, est-ce que tu peux signer mon maillot ? Le maillot de Nike, je crois que c'était une sorte de Nike Hoop Hero, mais
ouais, c'est ça. Nike Hoop Heroes versus All-Star français. Vous aviez perdu 70 à 63. J'ai les stats.
Ça va. Donne-moi les stats de Fredo.
Fred Weiss, 6 points. Et dans l'équipe de Fred, il y avait Mustapha Sonko, Laurent Poirest, ouais, Alain Digbeu, meilleur marqueur du match avec 19. Fabien Dubos, Fred Weiss, Willem Lohr et Freddy Fautou.
Donc j'ai deux anecdotes par rapport à ça. Donc la première, c'est que j'ai le maillot signé de Charles Barkley chez moi, donc ça c'est quand même plutôt
tu l'as
sympa.
Gardé, je l'ai gardé. J'allais te dire, je suis sûr que tu l'as perdu dans un déménagement.
Celui-là je l'ai gardé, parce que pour moi il représente vraiment quelque chose. Et deuxièmement, il y a eu un concours de 3 points à la mi-temps, et on a opposé Reggie Miller à Freddy Fautou.
Il a gagné Freddy.
Freddy Fautou a perdu, mais de très peu.
Très bien, et dans l'équipe en face, donc il y avait
je l'ai eu en message.
Jason Kidd était là, Gary Payton, Reggie Miller, Charles Barkley, Vin Baker, Sharif Abdourahim. Jones qui était là, c'était peut-être Popeye Jones, je sais pas. Walter McCarthy. Et voilà.
Connais pas Walter McCarthy.
C'est un mec qui joue à New York, je crois, au Celtic.
Il avait le numéro 0-0.
Vu que t'as perdu ta médaille olympique, j'aurais supposé que tu avais perdu ce maillot.
Non, parce que celui-là, il a vraiment quelque chose d'important pour moi.
Alors, quel est le plus grand moment de la NBA en France ?
Eh bien, écoute, j'ai l'impression qu'on avait tous 14 ans quand il a pensé. Bon, c'était pas la même,
la même
époque, c'était en 91, moi. Cinquième édition de l'Open McDonald's avec le CSP Split, la Juventud Badalone et Los Angeles Lakers. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait trois choses que j'adorais. Le CSP, les Lakers et le McDo. Et donc, premier match...
Et Split, il n'y avait pas...
Il y avait Split, bien sûr.
Il n'y avait pas un petit Kukoč, non ? Ah non, c'était trop tard.
Il y avait une banane.
Comment ?
Une banane.
Oui, excellent. Kukoč n'était pas là, non ?
Il a joué à Split, mais... Il appartient à NBA, non ?
Non, mais peut-être qu'il y était. Alors honnêtement, je ne me suis pas enseigné sur ça. Moi, je me suis enseigné sur le match du CSP, le premier, où il y avait Dakoué, Ostrovski, Mbaya et bien sûr Fred Forte, qui n'avait de cesse de me rappeler qu'il avait défendu sur Magic Johnson. Et c'était intéressant de...
Il avait défendu Fred.
Justement, je vais y venir.
Il était face à lui, quoi.
Il m'a dit, j'ai défendu sur Magic Johnson, je l'ai tenu, et Magic Johnson a fait 21 passes en 27 minutes.
Bravo, Fred.
Il l'a tenu.
Un record
c'est
incroyable.
Mal, hein.
Au final, 132 à 101 pour les Lakers. Lakers qui venaient de perdre le titre contre les Chicago Bulls de Michael Jordan, donc le premier titre de Michael Jordan. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est le deuxième match. Alors, comme je disais, il y avait Split et la Juventud de Badalone qui se sont affrontés, et finalement, c'est la Juventud de Badalone qui a gagné. Match final contre les Lakers. Match très serré à la mi-temps. Finalement, 19 points d'avance pour les Lakers, et Badalone revient. Revient très très bien même. À 30 secondes, ils sont à moins 2. Et d'un seul coup de sifflet de l'arbitre, Ed Rush. Rappelez-vous, c'est un Américain. Coup de sifflet favorable aux Lakers. Ah, c'est
bizarre,
surprenant quand même.
Bizarre, ouais.
Et donc finalement, les Lakers s'imposent 116 à 114.
Encore un coup d'arbitre.
Et donc, la petite histoire dit qu'il y a eu un vote de MVP. Magic Johnson, 10 votes. Byron Scott, 2 votes. Et Ed Rush, 5 votes. L'arbitre, parce que c'est lui qui a permis à cette équipe de ne pas perdre contre la Juventud de Badalone. Donc voilà, un souvenir où je me suis dit, la NBA finalement, c'est pas si fort que ça, parce que même Badalone est capable de les...
Ed Rush est l'arbitre de référence de Geoffrey Charpille, notre producteur.
Donc voilà.
Et Badalone, c'est une grosse équipe à
l'époque. Oui, c'est une grosse équipe, bien sûr.
Il n'y avait pas San Epifanio à l'époque là-bas.
Oui, je crois, oui, c'est ça. Ouais.
Et alors effectivement, Kukoč a bien joué à Split jusqu'en 91. Alors est-ce qu'il était là ou pas ?
Non, je pense pas, je pense qu'il était parti.
Très bien. Alex, le plus grand moment de la NBA en France ?
Eh bien, tout simplement. 9 ans après le match que Stephen a cité tout à l'heure entre deux équipes NBA à Paris, le deuxième de l'histoire.
Peut-être, ouais, j'ai 3 ans.
Pas loin. Pas loin. J'avais 13.
Tu vois, comme quoi.
Même pas, j'avais 12. C'était le 8 octobre 2003. C'était aussi de la pré-saison. Et ce sont les Spurs, champions NBA en titre, qui débarquent à Bercy. Seulement quelques semaines, on resitue le contexte après la draft de LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade. Première draft diffusée en direct sur ESPN. Les Spurs venaient, eux, de mettre fin à la dynastie des Lakers de Kobe et Shaq. San Antonio s'est imposé face à New Jersey. Internet rentré à foison dans les foyers en Europe début des années 2000. La NBA était dans sa deuxième étape de mondialisation après la période Jordan. Et le coup de boost était absolument total en France puisqu'un certain Tony Parker, drafté 2 ans plus tôt, eh bien devenait le premier Français de l'histoire à être champion NBA. Une barrière immense de franchie. La France est restée debout chaque nuit des finales pour voir ça. Et Tipeee revient donc en France pour la première fois avec le maillot des Spurs pour affronter les Grizzlies de Memphis. L'affiche, oui, elle n'est pas sexy sur le papier, mais elle est fondamentale dans la popularité du basket en France. Bercy fait salle pleine. Pierrot, au premier rang, ne loupe évidemment pas la présence de Zinedine Zidane, Thierry Henry, Nicolas Anelka, Marcel Desailly, Eric Cantona, Stéphane Diagana ou encore David Douillet. Les champions français sont là
pour voir le nouveau, probablement.
Probablement aussi, pour voir le nouveau petit gars de leur cercle tant fermé de champions.
Il va y avoir aussi Eric et Ramzy, et vous allez avoir...
Je les vois pas sur la photo, mais c'est
Omar
possible.
Et Fred.
Il y avait Didier Deschamps à côté de Zizou.
Jamel Debbouze, sans doute.
Jamel Debbouze.
Il y avait Noël Le Graët aussi à côté de Zizou.
Qui bougeait pas. Le Parisien écrivait à l'époque « La Parkermania est là. La soirée a pris les allures d'un concert de Johnny ou d'une grande messe. Un vrai grand événement parisien. Le public était en folie. » Tout simplement parce que quand Tipeee, son nom est annoncé par le speaker de la salle, c'est une ovation. Tout Bercy se lève pour l'acclamer. Le Français se dira très touché à la fin du match car il dit que le public est un public difficile en France. Donc c'est une grande émotion. À l'arrivée, 19 points, 5 passes décisives, victoire des Spurs 105-93. Et il est élu homme du match. Le scénario est idéal pour lancer la saison et populariser le basket en France. Surtout avec une touche de rivalité parce que oui, celle-ci va être fabuleuse durant de nombreuses années. En face, il y avait ce soir-là un certain Pau Gasol qui finira deuxième scoreur de la rencontre face à Tipeee, comme quoi ils ne se sont jamais quittés. À l'époque, juste la petite anecdote, c'est que les caméscopes, parce qu'on disait encore caméscopes, avaient été interdits à l'entrée de la salle de Bercy, mais devant l'affluence nombreuse, salle pleine, et les gens tous venus pour garder leur petite part de souvenirs, eh bien la sécurité et la NBA ont cédé tardivement pour offrir cette chance aux plus chanceux de ramener eh bien, leurs petits souvenirs dans leur caméscope. Et cette magie dans la salle captée par donc, les caméscopes des uns et des autres, des enfants et de leurs parents, tous se souviennent encore parce que ce soir-là à Bercy, il y avait des hommes et un prophète.
Bravo, parfait, c'est très bien raconté, mais il me semble quand même, et j'avais 16 ans, c'est pas loin de 14, que le plus grand événement, celui dont tout le monde se souvient, c'est la venue de la Dream Team 92. Alors certes, c'était à Monaco, mais c'était un événement français.
Ouais, personne l'a vu, ça.
Personne l'a vu.
Ah oui, mais par contre, c'est de la mythologie, la France, oui. Ça fait partie de la mythologie du basket en France. C'est-à-dire qu'il y a ce USA Monaco, Dream Team France, pardon,
USA France, ouais.
De 92, juste avant les Jeux de Barcelone. Avec toutes les méga stars.
Ah oui, ils sont tous là. Et tu sais que
c'est. Et un public français qui en profite.
Et tu sais que cette.
Ouais, mais petite salle. Avec
petite salle. Et tu sais que bon, la petite anecdote, c'est que l'équipe de France n'avait plus rien à jouer cet été-là. Donc ils n'étaient même pas ensemble. Et le match était organisé quasiment à la dernière minute. Ils ont dû rappeler les joueurs qui étaient en vacances. Oui, il y a un match qui se joue contre la Dream Team. Donc ils sont tous revenus pour jouer contre la Dream Team. Il y avait pas de.
Je pense qu'on l'aurait fait aussi. Hein.
Ouais, pas sûr.
Peut-être sur la Dream Team.
Pas sûr.
C'est peut-être ça quand même, non? Le plus grand événement, vous pensez?
Oui, mais après, il n'y a pas d'image.
Il y a quelques images. Ouais,
très peu.
Il me semble qu'il y a un dunk.
Il n'y avait pas de caméscope, c'était interdit.
Ça fait partie de la légende, les gens que tu croises qui te racontent le match. Tu vois, ils le mettent à la sauce. L'arbitre qui te dit qu'il a sifflé marché à Magic Johnson. Bon, il n'y a que lui qui le sait s'il a vraiment sifflé.
Je crois que l'entraînement de Team USA avant les JO est même plus connu que ce match-là.
Exactement.
C'est vrai. Bravo, messieurs. Vous allez maintenant vous affronter sur un quiz de très haut niveau. J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est parti chez Sting.
Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là,
premier...
ça paye ou pas ?
Je vais tout arracher.
Non, mais d'abord, au tableau, Stephen Brun, élève Brun. Oui. Pour les bonnets d'âne.
Ouais. Vous voulez pas respecter les rouquins, les amis ? C'est ça votre problème ?
C'est très bien, mon petit Stephen. Je te mets ton premier B+ Merci. De l'année.
Merci.
Car malgré tes difficultés scolaires, tu t'accroches, tu travailles et tu as très bien compris le thème de cet exposé, contrairement à tes camarades. Andrea Bargnani.
Daniel Ena Complex.
Daniel Ena Complex.
Mais pourquoi je vois un demi ?
C'est I-A.
Attends.
Ça fait fait longtemps que j'ai pas fait une charade. Je vous en fais une la semaine prochaine.
Exact.
Alors, c'est un quiz, la NBA et la France. C'est assez large, c'est assez vaste, puisque le thème de cette semaine,
c'est
Chicago, Détroit,
Paris. On va faire un quiz, la NBA et le monde.
Alors, la NBA et la France, ça réduit quand même les possibilités. Et c'est un quiz relativement difficile, je trouve. Vous avez commencé par devoir découvrir un joueur français qui a joué en NBA, mais vous trouvez qui c'est au travers de ses stats. Oh, ok, c'est pas facile. Hein.
Ouais.
Allez, je vous donne ses stats. 13 matchs,
13
0 comme titulaire. 13 matchs, 0 match comme titulaire.
Damien Inglis.
2,9 minutes de
Adam
moyenne.
Mokoka.
Non, non. 1.1.
William Howard.
1,1 rebond, 1,1 point. 0,2 passes.
Peter Cornelly.
Petr Cornelli, exceptionnel. Alex Bigger.
Ah ouais, on va chercher les cancres de la NBA.
Si je vous avais dit Denver, ça venait tout de suite.
Oui,
tout
à fait, Peter.
Okay.
Ouais.
C'était le prochain indice, donc bravo. Alors, ceci dit, Petr Cornelli, qui est au Real, donc...
Il est très bon, en plus.
On ne peut pas dire que c'est un échec.
Le joueur n'est
pas en échec.
Limite, ça l'a même relancé, d'ailleurs, parce qu'après, il est parti en G-League, il a tout fracassé.
J'étais quand même assez surpris que le Real le prenne au départ, et finalement, c'est un bon coup.
Alors, à vous de me dire, dans la deuxième question, qui parle dans cet extrait ?
I remember it was a great time.
And we were Michael oldest, Jordan.
I was 13, my oldest sister was 14.
Kobe Bryant, c'est Alex qui parle premier. Écoutez l'interview, du coup. Parle de la France.
Right, and our parents said, well, no, you have to go to an American school because you're too old to just throw you into a French school to start learning how to speak a French. But we were really, really disappointed because we wanted to really be a part of the culture and said, listen, today, as I sit here today, I wish we would have gone to a French school because then I'd be answering you in French, as opposed to speaking English. Because the best way to learn a language is to just dive in where you have no other option. But to learn it, but we had a great time being in Mulhouse.
Voilà, donc il raconte quand il était à Mulhouse avec son père et ses sœurs. Avec ses sœurs, il voulait à l'école française. Ses parents lui ont dit non, c'est l'école américaine, les enfants.
Et Kobe qui a un vrai talent pour les langues, parce que tu connais cette anecdote. Il joue Lucas Doncic joue les Lakers et Kobe il est au premier rang. Lucas Doncic fait une remise en jeu et il entend un mec parler slovène. Il se retourne et c'est Kobe qui lui avait glissé une phrase en slovène.
Alors, je vous donne ça fait deux points pour Alex. Je vous donne les clubs d'un joueur français en NBA dans l'ordre. Et vous devez me trouver qui est ce joueur. Vous êtes prêts ?
Oui.
Ça peut aller vite. Denver Nuggets.
Yakuba Diawara.
OKC Thunder. Chicago Bulls.
Evan Fournier.
Et
non.
Le dernier.
Geoffrey Lauvergne.
San Antonio Spurs. Geoffrey Lauvergne. Magnifique. Stephen qui revient dans la course. Qui a déclaré ? Je considère toujours qu'on a manqué de respect en sortant notre leader historique, Yann Bonato, pour faire de la place à Tariq.
Laurent Forest.
Laurent Sierra, bien sûr. Laurent Sierra.
C'est un Laurent.
Qui ne mâche pas ses mots. Les intelligents du basket ont pensé qu'il nous manquait ce genre de gars. Un an après, on était vice-champion olympique sans lui. Lolo, on te salue et on t'adore. Voilà, c'est tout. C'est Tariq. Alors, quand même, juste un mot. Tariq Abdoulouane, le premier Français drafté en NBA, qui a une histoire controversée avec l'équipe de France, qui n'a jamais trouvé sa place dans cette équipe de France, alors que c'était un vrai bon joueur.
Moi j'étais en 99 avec Tariq Abdoulouad, et c'est vrai qu'ils avaient créé le gang des chaussettes montées un petit peu, qui était un peu différent.
Alors, Fred, tu as vécu l'histoire de l'intérieur, est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est de votre faute?
Concrètement, je vais être très sincère, déjà c'était pas de ma faute, parce que moi j'étais le petit jeune qui arrivait et j'avais 5 ans, 5 ans
de moins. Alors de la faute de ceux qui étaient en place, disons.
Et j'ai l'impression que c'est un peu une incompréhension des deux côtés.
Je crois qu'on m'a dit qu'il le racontait très bien dans son livre aux éditions Amphora.
Ouais, c'est vrai.
Cette histoire, Fred.
Je peux raconter.
Raconte, disons.
Non, mais... C'était quelqu'un de particulier, il avait cette attitude NBA, c'est vrai qu'il était très exigeant avec lui et avec les autres.
Lui ne vient pas de France sur le basket, il a été drafté à l'université comme les Américains.
Hein. Oui, il a fait la fac, mais il a grandi à Évreux quand même.
Il est arrivé, je veux dire, quand il est arrivé en NBA, il avait déjà la culture, c'est ce que je veux dire.
Oui, parce qu'il a fait NCAA, après je trouve qu'on a voulu opposer, et là c'est mon avis, opposer les Noirs et les Blancs en équipe de France.
Mais complètement.
Ça,
alors qu'il n'y a pas du tout eu de problème de racisme, par exemple.
Lui a dit qu'il a été victime de racisme et ça a vexé énormément les joueurs qui étaient en place.
Moi, je te le dis, pas du tout. Mais par contre, il y avait une vraie incompréhension au niveau du basket.
Alors, vous allez me citer une réponse à tour de rôle, car il y a trois noms à me donner. Trois joueurs français ont joué à Orlando. Vous m'en citez un, chacun à votre tour. C'est Fred qui commence.
Evan Fournier.
Bravo, Evan Fournier a joué à Orlando. Bonne réponse. Alex. Mike Pietrus a joué à Orlando. Bonne réponse. Steve.
Tariq Abdoulouad.
Excellent, exceptionnel. Est-ce que tu l'aurais dit si on n'avait pas parlé de lui juste avant ?
Oui.
Eh ben, bravo. Bravo à toi. Et donc, il y a toujours
pas
trois.
La plus, c'était pas la plus dure, celle-là, des questions.
Trois... Non, mais je pensais que Tariq, ça pouvait éventuellement vous échapper. Trois points pour Stephen, trois points pour Alex et un point pour Fred. Et je t'avoue que c'était aussi pour t'énerver, parce que les deux autres étaient très faciles.
Ah, donc... C'est pour ça que ça a commencé comme ça.
Non, j'ai commencé. Alors, je m'étais dit, je commencerai par celui qui a le moins de points.
Ah, d'accord.
Donc, ça aurait pas forcément été Fred. Qui parle dans cette interview ?
Georges Eddy. Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé.
Oh, t'es allé chercher loin là.
Absolument, c'est Kylian Mbappé.
Mais il a dit des mots là.
Non, mais bravo, parce que le micro, on le sent, est vraiment loin de lui.
Non, mais il est loin, il fait.
Ce son d'ambiance là, horrible. Il y a 15 jours au Nets, on lui demande qui sont les meilleurs joueurs actuels en NBA. Vous voulez réécouter sa réponse ?
Vas-y.
Et on la repasse.
Top 5. LeBron James, Kevin Durant, Giannis, Luka Doncic et Jason Tatum.
Voilà,
Jason Tatum.
Doncic, Tatum, Giannis, KD et LeBron, donc il n'y a pas cité Jojo Embiid.
Non, c'est français. Le seul français. Ouais, c'est dommage.
Donc Steve prend la main, ça fait 4, 3 et 1 point pour Fred. Ah, ça c'est difficile. Je vous cite des joueurs qui ont en commun une performance rarissime dans un match NBA, dans un match.
J'aime bien cette délire-là que personne ne comprend, Pierrot. Vraiment.
C'est très simple à comprendre, non ?
J'ai rien compris.
J'ai testé la question sur notre producteur Geoffrey.
C'est pour ça que tu es parti t'enfermer dans une salle avant, là ?
Il a trouvé direct. Je vous annonce, et je pense que c'est la question la plus dure. Hein. Non, il y en a une autre qui est pas mal.
Mais il est spécial, Geoffrey.
Alors, je vous cite des joueurs qui ont en commun une performance rarissime.
Statistique
sur un match NBA. Ils ne sont que 5. Je vous donne l'identité de ces joueurs et vous devez trouver de quelle performance il s'agit. Oui. C'est pas facile. Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Sean Bradley.
Ils ont fait un triple-double avec les contres.
Et Joakim Noah.
Triple-double avec des passes contre.
C'est... On s'en rapproche.
Triple-double.
Oh putain, j'ai du mal à sortir.
C'est un triple-double particulier.
Ils ont
triple-double
sans les points.
Ou à moins de 10 points.
Triple-double
sans les points.
Non.
Sans les rebonds.
Non.
Triple-double.
Avec les contres.
Il y a les contres, mais il y a autre chose.
Ils ont fait 20 points, 20 rebonds
sans
et
louper
passes.
Un shoot. Excellente réponse de Stephen Brun. 20-20-10. Ils sont 5 à l'avoir fait, dont Joakim Noah. Donc il a fait 23 points, 21 rebonds et 11 contres le 18 février 2013 lors d'un Chicago-Philadelphie.
Bravo Joakim.
Hein, quand même.
Bravo Jukes.
Parfois on respecte c'est pas beau. Assez Joakim. Par contre, on va être obligé de respecter Steph qui a 2 points d'avance sur Alex et 4 sur Fred. Lors du premier match officiel de la NBA à Paris en 2020, qui termine meilleur scoreur ?
Kemba Walker ?
Non.
Yannis. Terry Rozier ?
Non, c'est pas Yannis. Yannis a 30 points.
Middleton.
Et il y a un second couteau qui a marqué Middleton. 31 points.
Wesley Matt, non, c'est un mec des Bucks ?
Non.
C'est un mec de Hornets, Terry Rozier.
C'est un mec qui sort du banc.
Ah, Devante Graham.
C'est un mec qui sort du banc des Hornets.
Monty Williams, Marvin Williams.
Non. Miles Bridges.
Non.
Malik Monk.
Allez, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot. C'est lui l'All-Star. 6 points pour Stephen, 3 pour Alex, 1 pour Fred. Bon bah voilà, c'est terminé, même s'il me restait une
question. Je connais la série Monk, c'est pas une série
aux enchères. Alors, il me reste une question aux enchères, mais il n'y avait que 2 points au max à gagner, puisqu'il y a 5 Français qui ont porté le maillot des Boston Celtics. Et vous pouvez démarrer l'enchère par 5, ce qui vous rapporterait 2 points. Parce que c'est déjà mort. Quel est ton enchère, Fred ? 5 joueurs des 5 Français aux Celtics. 3 ? Mais dis 5. Alex, t'as les 5 ?
Non.
Steve, t'as les 5 ? Tente les 5.
J'en ai 4 sur Jérôme Moïse.
Attends, tente les 5, Fred, pour revenir à égalité avec Alex.
T'as dit combien, toi ?
J'en ai 4 sur.
Mais il a déjà dit un nom en plus, ça m'a pas entendu.
Non, mais je l'avais, Jérôme.
Allez, tente les 5.
Non, oh, le bluff
pas... Non, mais vraiment, Jérôme, je l'avais.
Moi, je peux tenter les 5. Evan... Je vais tenter les 5.
Allez,
moi.
Vas-y, Evan.
Donc, Jérôme.
Ouais.
Evan, Poirier.
Voilà, il y en a un autre récent. Et dernier.
Gershon
Yabouzélé. Et le dernier est dur. Mais tu peux le trouver. C'est en fin de carrière. C'est pas la franchise où il a marqué les esprits. Pas du tout la franchise.
Et on a déjà prononcé son nom, je crois, dans l'émission.
Oui, absolument.
Dans un autre club. Pour le même genre
donc
de jeu.
Stephen là.
Le même genre de
Alex,
jeu.
Tu l'as ?
Non.
Eh ben, c'est.
Mike Pietrus,
absolument.
Ah
ouais. Je pense
que je m'en rappelais plus. Lui.
C'est une victoire haut la main de évidemment. Stephen, donc qui est le premier All-Star du quiz de basket.
Congrats !
On va faire d'autres sélections, vous inquiétez pas, messieurs, vous pouvez gagner votre ticket pour le All-Star
Game. Game de basket time. Qui aura lieu sur le playground à Belleville avec Pierrot Dorian et ses enfants.
Allez, à la semaine prochaine.
RMC Basket Time.